Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la moto et des moteurs sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou campuslille.com et le DAB+ de la radio numérique. Le tout terrain à l'affiche de cette émission aujourd'hui avec notre spécialiste de la discipline, Guy, bonjour.
Bonjour la biche.
Un spécialiste, oui Guy.
Ouais,
bah, tout le monde te connaît ici dans le Nord, même dans toute la France.
Dans le monde entier.
Même dans le monde entier même.
En effet, ouais. Donc, dernière émission de l'année.
De l'année.
Alors, il ne faut pas oublier qu'on est calfeutré ici avec le virus. Hein,
Pas encore tout à fait, Guy. Mais on sent que quand même, il y a des choses qui vont arriver là.
Ouais. On a enlevé nos masques toujours. Hein, on ne sait jamais. Hein. Donc, pour la dernière émission, le premier intervenant, on aura Stanley Leroux qui va présenter son album 2021, son 13e album, je crois, avec un magnifique album, avec des belles photos, etc. Ensuite, deux mots en quatre temps avec notre ami Gilou.
De mes motocross.
De mes mots, ouais, ça c'est vrai. Ouais.
Hein, c'est un site qui regroupe alors toutes les dates depuis 1900, depuis la création du championnat.
Les classements.
Hein.
Ouais,
depuis 52. Depuis 52.
Depuis 52. Ah bah, voilà, oui. Une petite précision. Voilà.
Depuis la nuit des temps. Ensuite, nous allons avoir Patrick Staller, qui est président de la Ligue des Hauts-de-France, qui va nous présenter le calendrier sportif. De la Ligue, hein. Bon, il est quand même assez conséquent. Et nous aurons ensuite Michel Leblanc, le président du motoclub de Marlevoirie, qui va nous parler de l'annulation du Grand Prix de Sidcarcross qui devait avoir lieu déjà l'année dernière. Il n'y a pas eu lieu, et cette année pareil, il va expliquer pourquoi, parce que les promoteurs sont avides d'argent, voilà. Et on fera un petit tour, on parlera du Dakar, le Dakar qui va commencer dans quelques temps, à la fin, le 1er janvier d'ailleurs. Et ensuite, pas mal d'informations tout terrain. Et nous avons dans le studio aussi un éminent spécialiste qui connaît Joël Robert, très bien d'ailleurs.
Oui, très bien.
Je l'ai connu.
C'est Marco. Bonjour, ouais, Marco.
Bonjour la miche, voilà. Bonjour Guy. Bonjour Laurent.
Ça va bien Marco? Pas de problème en ce moment là?
Ça va, à part le Covid, ça roule.
Voilà, très bien. Voilà. Et on présente notre super technicien, bien sûr, hein, Laurent.
Laurent.
Just who is loving you
Le tout-terrain à l'affiche aujourd'hui dans le rendez-vous des motards sur Campus en 6,6 avec Guy.
Oui, bonjour Stanley.
Bonjour Guy.
Salut, écoute, j'ai dévoré ton album là, que j'ai reçu hier. Page par page, je regarde, j'admire, voilà. Alors, c'était la 13e année consécutive que tu sors ce magnifique album.
Merci déjà pour le mot magnifique. Content que tu l'aies dévoré, j'espère qu'il en reste encore un petit peu malgré tout. Mais oui, c'est la 13e année consécutive. Une fois que tu commences cette aventure et que les lecteurs suivent, je trouve ça important de rater aucune année, bien entendu. C'est une collection, il faut que la collection demeure complète. Donc oui, c'est depuis 2009.
Depuis 2009. Cette année, est-ce que tu as connu des difficultés avec le Covid, pour aller sur les pistes de motocross?
À moins que l'année dernière, quand même. Il y a deux difficultés. Les difficultés logistiques pour voyager. Maintenant, les Grands Prix ont pu se tenir lieu, donc ça veut dire que nous autres, photographes et journalistes, ça veut dire qu'on pouvait être présents, ce qui était des fois plus difficile pour le public. L'année dernière, là où c'était plus difficile, c'est qu'on manquait un petit peu de contenu par rapport au fait que la saison était quand même plus courte, il y avait moins de lieux pour les Grands Prix. Il y avait un contexte qui faisait que on avait comblé les trous autrement. On était allé visiter des ateliers de team, usine, tout ça. Cette année, on s'est rendu compte que on n'avait aucun mal à remplir les 192 pages habituelles. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'on a eu une saison qui a été suffisamment riche.
Oui, c'est vrai, riche en bagarre, surtout jusqu'à la dernière épreuve, quoi, principalement MX GP.
Ouais, tout à fait. Je pense que tout le monde, tous les auditeurs l'ont suivi. Je crois qu'on n'avait jamais eu une finale aussi serrée que depuis Philippert et Ramon il y a plus de 10 ans. Là, on parle quand même de pilotes qui un calibre bien supérieur. Il y avait à peu près 20 titres de champion du monde sur la table en début d'année entre les 5 pilotes qui pouvaient prétendre au titre. Et donc, c'est sûr que quand ton job, c'est de faire le livre qui retrace toute cette histoire-là de toute cette année, je dois dire que ça a été assez passionnant et que ça a été un livre, du coup, particulièrement facile à faire.
Est-ce que tu as fait tous les Grands Prix cette année ?
Alors moi, à titre personnel, je fais pas tous les Grands Prix. En tout cas, je ne les fais plus. Maintenant, on travaille à trois sur le livre Motocross GP Album. Donc je suis épaulé par Pascal Audiquer, que vous connaissez bien, et que lui, bien entendu, fait tous les Grands Prix. Oui. Et également, on est même quatre. Il y a Paul Meylin qui rédige la préface du livre. Et qui est la voix du motocross. C'est celui que vous entendez à la télé si vous regardez les Grands Prix sur MXGP.tv. Et donc lui aussi est là à tous les Grands Prix. Et on a Lorenzo Resta, qui est également là sur tous les Grands Prix, qui complémente le livre en photographie. Je trouvais important d'avoir plusieurs regards photographiques. Moi, mon travail, on va dire, s'est déporté au fil des années de photographe à directeur de publication. Et du coup, je fais toujours des photos, et bien entendu, et la plupart des photos du livre, mais c'est chouette de pouvoir cumuler mon regard et celui de Pascal et celui de Lorenzo. Ils apportent des choses super. On a notamment cette année, par exemple, la fameuse chute qui a fait couler tant d'encre entre Jeffrey Herlings et Jorge Prado.
Ah oui.
Ça, on l'a en photo dans le livre. On a aussi on a une séquence incroyable où il y a Jeremy Schwer qui se fait rouler sur le dos au départ par Caroli qui ne peut pas l'éviter.
En effet, ouais.
C'est devenu un travail d'équipe pour essayer d'offrir le livre le plus complet possible. C'est le livre annuel du championnat édité avec la FIM, donc c'est important de faire le travail le plus complet possible.
Tu as une question, Marco?
Bonjour Stanley, c'est Marco.
Salut Marco.
Salut. Bon, encore félicitations pour ton bouquin. Je voulais te poser une question. On en parle souvent avec Gilou. Toi, tu es du bon côté des barrières, mais qu'est-ce que tu penses des grillages qui sont de plus en plus hauts et qui empêchent le spectateur de pouvoir peut-être même passer l'objectif de son appareil photo pour faire des photos et de tous ces panneaux publicitaires qui sont de plus en plus grands.
Ouais, ben ça c'est je connais bien la prose de Gilou et son combat là-dessus. Et moi j'ai eu une chance, c'est que j'ai pas tout de suite été de ce côté-là des barrières. J'ai d'abord débuté en tant que spectateur. Et je faisais d'ailleurs mes photos à l'époque pour Michael Pichon en tant que spectateur. Je savais même pas que j'avais le droit d'être accrédité. Et un jour c'est Pascal Audicaire qui est venu me chercher, qui m'a dit mais attends, vu ton travail et vu pour qui tu travailles, tu peux être accrédité. Mais moi ça faisait déjà un an ou deux que je travaillais côté public. Donc j'ai connu les deux côtés. Et en effet, je trouve que pour les spectateurs, aujourd'hui, c'est forcément difficile de voir toutes ces barrières s'ériger devant eux et de voir petit à petit leur contact avec la piste s'éloigner année après année. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi j'ai vécu une expérience cette année à Oss, aux Pays-Bas. Pour ceux qui étaient présents autour de la piste, vous avez pu voir que ben là, justement, le public était très proche de la piste. C'était un circuit à l'ancienne, c'était la première fois qu'ils accueillir un grand prix.
Et
d'ailleurs, moi, en tant que photographe, pour nous, c'est génial quand le public est aussi proche de la piste.
Oui,
fait des photos beaucoup moins aseptisées, il y a de la vie, ça transpire, c'est génial.
Mais il y a quelques portions de l'Omel où c'est quand même accessible pour faire que certaines photos, où les barrières sont un peu plus basses, mais c'est pas encore ça.
Alors, les barrières sont basses, mais à l'Omel, vous êtes quand même assez loin de la piste. Alors qu'à Oss, le circuit était trop étriqué pour ça. C'est un circuit qui n'a pas été prévu pour des Grands Prix. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était en deuxième manche MX2. Je circulais d'un côté à l'autre de la piste, et pour aller plus vite, je suis passé par le côté public. Et là, il y a une moto, une Kawasaki qui est sortie de la piste, et qui a littéralement emporté sur son passage le spectateur qui était devant moi. Je l'ai retrouvé, le pauvre, 3 mètres plus loin, et il est reparti du Grand Prix sur une civière. Et là, je me suis dit, ouais, je ne suis pas passé loin, mais surtout, je me suis dit, mince, mais c'est pas normal. Le grand public ne devrait pas risquer sa vie sur un Grand Prix. Nous, c'est notre travail, mais le grand public devrait être en sécurité. Et là, on réalise quoi ? On réalise que c'est un problème qui est difficile, parce que là, pour une fois, le public avait un accès plus direct au terrain, mais ça s'est terminé avec des accidents. Et donc, ça démontre aussi une chose, c'est qu'on a tous envie, en tant que spectateur, d'être le plus près possible de la piste, mais je pense également que la notion de sécurité est devenue de plus en plus importante, et que c'était pas comme ça il y a 20 ans, et qu'il y a 20 ans peut-être que c'était un petit peu commun d'avoir des spectateurs qui se fassent emporter par des pilotes, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne tolère plus.
Ouais, moi j'ai connu une époque où c'était simplement une ficelle qui départageait la piste des spectateurs. Hein.
Aujourd'hui, même pas de ficelle du tout.
Pas de ficelle. Et on traversait la piste en regardant à droite et à gauche.
Voilà. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, on a un souci, c'est que le spectateur a besoin et a envie, et je le comprends tout à fait, d'être près de la piste, mais en même temps, on est tous, en fait, dans un monde où on a un besoin et on a une habitude de sécurité qui font que c'est difficile, en fait. Il faudrait des pistes qui soient réellement prévues pour ça. Et le problème, malheureusement, c'est que les pistes où il y a le plus de place pour prévoir les infrastructures de sécurité, c'est les anneaux de vitesse, et c'est pas forcément ce qu'on préfère.
Mais c'est certain que quand tu vois aux États-Unis, on n'est pas arrivé à ce niveau-là de sécurité. D'ailleurs, quand tu vois le podium, les spectateurs sont proches du podium à l'arrivée pour la remise des prix, et les panneaux publicitaires sont beaucoup plus petits, plus bas, et il y a une accessibilité qui est différente. Donc, je pense que c'est aussi en fonction des pays.
C'est sûr, voilà. Alors après, les panneaux de pub, ils sont trop pour tout le monde, pour le public, pour nous photographes. Moi, je suis un peu petit, des fois j'ai du mal à faire les photos par-dessus les panneaux de pub, donc c'est pas évident. Mais en effet, voilà, moi quand je me retrouve notamment devant le public pour faire mes photos, dès que je peux, je me baisse, parce que voilà, c'est le public, c'est lui qui paye sa place plein pot, et c'est grâce à lui que le sport peut survivre, et c'est grâce à lui nous, on peut faire notre boulot.
Ça peut aussi écarter le public, le fait qu'il n'y ait plus cette visibilité, et le prix de la place peut aussi dire, tout compte fait, je vais rester devant la télévision.
Bah, je suis d'accord, et là on l'a bien vu cette année, il y a eu beaucoup de terrain cette année où bien qu'il y avait une jauge qui était imposée, ils n'avaient pas vendu, ils ont même pas vendu autant que la jauge ne leur permettait. Alors, pourquoi ? Parce que les gens ont moins envie qu'avant de se déplacer, et donc en effet il y a une question qui va devoir se poser.
Il y a une discussion là-dessus à faire.
Comment on fait pour redonner envie au grand public de venir voir les courses, parce que c'est lui la star principale. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on a ressenti cette année, au fil de l'année, au bord des pistes. Moi, en tant que photographe, mais n'importe qui de l'industrie qui travaille dans le paddock pourra vous dire la même chose, tout d'un coup, on a commencé à ressentir la présence du public et on a commencé à se rappeler, en fait, l'importance du public. On l'a eu en France, ensuite, il y a eu le Grand Prix d'Espagne, ensuite, bien entendu, il y a eu Mantova. On s'est rendu compte vraiment à quel point c'était important et à quel point ça nous avait manqué l'année dernière. Et moi, en tout cas, pour le livre, c'est quelque chose d'important.
Et Stanley, pour revenir au livre, il y a deux couvertures disponibles. Hein. Il y a Maxime Renaud et Antonio Caroli, qui est déjà album qui est déjà épuisé.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, on édite chaque année deux éditions. Donc, il n'y a que la couverture qui change. Hein. C'est pour que chacun puisse choisir, pour avoir une collection qui ressemble à ses goûts. Et en effet, l'édition limitée, elle est épuisée depuis quelques jours. Donc moi, je suis désolé hein, pour ceux qui voulaient à tout prix cette édition-là. C'est une édition qui est très demandée. Mais donc là, il nous reste encore quelques cartons de Maxime Renaud. La plupart des années, on est épuisé quelques mois, voire quelques semaines après la sortie. C'est des livres qu'on peut pas rééditer. C'est compliqué d'en rééditer une fois qu'il a été épuisé. Donc on va dire que c'est premier arrivé, premier servi.
Premier servi. Ouais, parce que figure-toi que pour Marco et puis pour moi, on aurait peut-être préféré avoir la couverture de Maxime Renaud, parce que c'est un gars de la région, tu vois.
Ah, et ben écoutez, la prochaine fois, il faudra transmettre la liste au Père Noël, au voilà, Papa Noël et MXGP Album.
D'accord. Dans ton album, il y a 20 pages qui sont consacrées à Antonio Caroli, hein, parce que pilote italien qui a pris sa retraite après 20 ans de compétition et 9 titres de champion du monde. Il y a pas mal de photos quand il était jeune, tout ça. Bon, c'est vrai que c'était quand même un monstre.
Il mérite ses 20 pages.
Largement, oui.
Ouais, bah c'est sûr que... Alors moi, je suis français, je suis chauvin, donc je ne suis pas le plus grand fan d'Antonio Caroli, mais ça c'est pour tous nos auditeurs et lecteurs français qui se demandent pourquoi on a mis 20 pages sur un pilote en particulier, parce que d'habitude, un MXGP album se doit d'être neutre. C'est le livre de championnat du monde. Maintenant, si on regarde en toute objectivité, bah, y a quand même un petit bout du MX mondial qui est parti à la fin de l'année avec Antonio, et par ailleurs c'est un pilote qui a grandi aussi bien dans son pilotage et dans sa tête au fil des années, et qui a pris une place importante dans le paddock, et c'est sûr qu'il manquera, et du coup on a jugé que c'était logique et mérité que de lui accorder ces pages-là, mais ça permettait également de regarder un petit peu dans le rétro et de voir ces 15 dernières années de Grand Prix. C'est toujours sympa ça nous rappelle les souvenirs à tous quand on est fan et qu'on a vécu ça de près à l'époque, et de revoir ça, quoi.
Donc, pour revenir à ton album, il est en vente exclusivement sur un site, hein, Motocross GP album.com, donc nous on l'a mis sur notre forum. Le prix il est de 46,90€, hein. Et puis le Père Noël sera chargé cette année pour les fans de motocross et qui ont mis leurs bottes devant la cheminée.
Voilà, exactement. Le Père Noël a déjà fait partir, en début de semaine, là, on a fait partir à peu près 300 colis, et la suite arrive très vite. On a les petits lutins qui s'affairent, et grâce à qui vous pouvez recevoir vos colis. Mais faut pas trop tarder si vous en voulez un, parce qu'il y a certaines années qui désormais sont plus disponibles.
Ok. Stanley, on te remercie de ton intervention, et puis vivement la 14e édition.
Eh bien écoutez, vivement la 14e édition. On espère une aussi belle saison que cette année.
Ok.
Salut Stanley.
Salut.
Salut à tous. Ciao, ciao.
Chante du motocross.
T'as connu Joël.
Tu es le roi.
Ouais.
Voilà, ouais, alors ça tire droit tout le temps, à chaque émission, hein, Gilou.
Ah bah c'est le jingle.
Là, je crois que ça devient ton jingle à toi, tu vois.
Ouais, je suis hyper fier parce que jingle Joël Robert, c'est pas. Voilà.
Sur les ondes de campus, dès qu'on entend ça, on sait que derrière, il y a Gilou.
De Memo Motocross.
De Memo Motocross. Tu vois, maintenant, désormais, ce sera...
Memo Motocross. Ouais.
En plus, avec un fond sonore de CZ 250, assez ouais. rare.
Ah oui, de plus en plus rare, oui. Ouais. C'est clair.
Bonjour, voilà, Gilou.
Oui. Salut, Gilou.
Oui. Oui,
alors, qu'est-ce que j'apprends? Ton repas est annulé.
Oui.
Ton repas indien ou chinois, ou je ne sais plus, qu'est-ce que tu m'avais dit?
Mon repas est annulé, il y a une suspicion de Covid, donc nous sommes des gens sérieux, nous sommes des gens raisonnables, donc c'est annulé, ça sera reporté à une autre fois, puis voilà. Donc, du coup, je suis complètement disponible pour répondre à toutes tes questions.
Ah, écoute,
aïe, aïe, aïe.
T'as mis ton chrono.
On est parti pour une heure d'émission.
Donc, écoute, on va d'abord, dans un premier temps, aborder le calendrier des Grands Prix 2022,
ouais.
Qui commence cette année assez tôt. En février, le 20 février, en Angleterre.
Oui.
Donc c'est une date très bonne pour les canards et les grenouilles en Angleterre. Hein.
Oui, mais c'est aussi compliqué, si tu veux, parce que c'était pas prévu, ce Grand Prix d'Angleterre n'était pas prévu. Au début, c'était un Grand Prix, normalement, dans les Émirats qui devait avoir lieu. Et puis, bon, compte tenu de la conjoncture... Covid, etc. Ça a été annulé et puis voilà et du côté d'Angleterre, ils sont toujours assez proches du promoteur et puis donc ils ont proposé ce Grand Prix. Alors est-ce qu'il aura lieu déjà? C'est pas encore certain parce que comme vous le savez tous, hein, il y a toujours des problèmes de pandémie et le 20 février c'est quand même pas très loin. Hein. Donc peut-être qu'il aura finalement, il aura pas lieu. On n'en est pas encore certain. D'ailleurs, on est sûr de rien finalement à notre époque. Voilà. Mais c'est en Angleterre. Alors, si tout va bien et s'il a lieu, c'est vrai que niveau météo, va falloir prendre la doudoune parce que le 20 février en extérieur, je sais pas en Angleterre, je sais pas trop le temps qu'il fait.
Il va faire comme dans le Nord.
Ah ouais, donc il va faire quoi, moins 10 ou il va faire 12?
Ouais, non, t'exagères, Gilou, là. Il fait pas moins 10 dans le nord de la France.
Ah oui, donc non, mais enfin, je veux dire, bon, on va voir, hein. De toute façon, ils prennent le risque. Si on a une météo, disons que le froid, ça sera peut-être une chose, mais c'est surtout, faut pas qu'il y ait trop de pluie, de choses comme ça, parce qu'après, ça dénature un petit peu l'épreuve, si c'est vraiment un bourbier. Bon, la bouffe fait partie du motocross, mais bon, ça donne quand même des courses un petit peu comme ça. C'est un petit peu du poker. Hein, donc un gars il peut avoir, une minute d'avance sur le deuxième ou des choses comme ça, des écarts impossibles. Et puis, j'espère que ça va bien se dérouler. Bon, le point positif de tout ça, c'est quand même que pour 2022, on retrouve quand même un calendrier un peu plus conforme. Dans la normale, c'est-à-dire qu'on aura 20 grands prix, mais je crois qu'il doit y avoir 17 ou 18 pays différents, donc c'est déjà pas mal. On se retrouve pas avec des grands prix, 6 grands prix d'Italie, par exemple, ou des choses comme ça. Donc on revient quand même vers quelque chose d'un petit peu plus conforme. Et le schéma des courses reprend également d'une...
Sur deux jours, ouais.
Sur deux jours, ouais.
Ouais. Mais en même temps, Gilou, quand tu vois qu'il y a l'Argentine 15 jours après, et ouais. Puis, il y a des grands prix exotiques comme en Indonésie. Après, ça se demandait si ça aura réellement lieu.
Bah, les grands prix, alors l'Indonésie, bon, c'est encore loin. Alors, ça va peut-être finir quand même par s'arranger, la situation. Tu parlais de l'Argentine, mais bon, par exemple, l'Argentine, on ne sait pas encore le circuit. Hein, ouais, il n'est toujours pas attribué. Et derrière, normalement, le 20 mars, il y a un autre grand prix. On ne sait pas le lieu. Alors, a priori, j'ai quelques échos comme quoi ce serait au Portugal. Hein, il y a des rumeurs qui parlent du grand prix du Portugal, donc à Agueda. À Agueda, j'y arrivais. Et puis, bon, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques grands prix un petit peu éloignés. De toute façon, ça fait partie du championnat du monde. Hein. Ils ont quand même abandonné le Grand Prix de Chine. Hein, c'était d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve avec, c'est un petit peu exceptionnel, avec deux grands prix en France. Hein, parce que...
Alors, le 1er mai, je vois MFR, mais je ne sais pas ce que ça...
C'est la Russie.
C'est la Russie, d'accord.
C'est-à-dire qu'avec les problèmes de... Comment on appelle ça de dopage. Maintenant, on ne met plus la Russie. le drapeau
bah alors
russe.
Là.
Ah ouais, ouais, non, mais si, si. C'est
d'accord.
Dans tous
ah,
les...
ok.
Si, si, même, regarde bien dans tous les classements,
ouais.
Si c'est un russe, le drapeau est disparaît.
D'accord.
Ah bon, eh ben je savais pas la
MFR,
raison exacte.
Ça veut dire quoi alors, MFR?
C'est la Ligue, enfin c'est la Ligue, c'est la Fédération russe.
Fédération russe. Russe.
D'accord, ouais, ok.
Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, écoute,
ah moi t'as appris quelque chose, Gilou, aujourd'hui.
Merci Guy.
Ouais,
merci
Guy, alors là, chose, bravo.
Ah ben voilà.
Ouais. Mais en fait, je pensais que c'était moi, c'était la Fédération qui proposait le Grand Prix, non pas le pays en tant que tel, si tu veux. Un peu comme parfois, tu sais, bah, par exemple, on a le Grand Prix de Sardaigne. Bon, mais c'est pas le drapeau d'Italie, si tu veux. Je pensais que c'était dû à quelque chose comme ça, que c'était la fédération. Mais enfin, bon, bah, écoute.
On voit que Guy suit les cours sur glace. Hein. Il est bien
au
courant de ce qui se passe en Russie.
Ah, tout ce qui se passe en Russie, en Pologne, Guy connaît bien.
Est-ce que tu as des prix sur la vodka aussi, Guy?
Aussi, aussi.
Donc, non, mais c'est. Voilà, on a un Grand Prix en Russie. Alors, c'est. Voilà. On va voir comment ça se développe tout ça. Hein, parce qu'encore une fois, c'est un calendrier. Et ils le disent bien aussi, c'est un calendrier prévisionnel.
Alors tu parlais de cette année de 6 épreuves en Italie, donc pour la première fois, 2 en France.
Pas la première fois, ça s'est déjà produit, c'est déjà arrivé. Hein. La dernière fois c'est en 2017, ouais. Il y avait eu deux Grands Prix, il y avait le Grand Prix de France à Ernée, et le Grand Prix, il s'appelait le Grand Prix de Montbéliard, c'était à Villars-sous-Écot.
Ah, Villars-sous-Écot, ouais, ok, c'est ouais. Vrai.
D'ailleurs,
c'est vrai.
Pour eux, ça a été difficile parce que ça a été un petit peu le coup d'arrêt.
Ouais, c'est vrai. Il y avait aussi la finale du championnat de féminin, d'ailleurs, à cette
époque. Oui, tout à fait, oui. Mais donc, ça s'est déjà produit. Alors, moi, je suis toujours... Je suis content parce que je vais aller certainement aux 2 épreuves s'il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis toujours... j'aime bien quand il y a un Grand Prix, lorsqu'il y a un Grand Prix par pays, chaque année. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, tu vois, on parlait tout à l'heure, il y a eu 6 Grands Prix en Italie. Si je demande où a eu lieu le Grand Prix d'Italie, est-ce que c'était à Mantova, est-ce que c'était à Trentino, est-ce que c'était à Matera, on sait même plus finalement.
Ouais.
Parce que voilà. Alors moi j'aime bien qu'il y ait un Grand Prix par année dans un pays. Par exemple Grand Prix de France, Saint-Jean d'Angély ou Ernée, ou voire à La Capelle ou Villars, mais qu'il n'y ait qu'un Grand Prix par an. Bon, on en a pas. Cette année, moi, je suis pas allé à La Capelle. L'année dernière, il n'y a pas eu de Grand Prix, donc je vais pas faire la fine bouche. Je suis bien content qu'il y ait 2 Grands Prix l'année en 2022. Donc, il y aura le Grand Prix. Donc, on en a parlé à Ernée, le Grand Prix de France au mois de juin, et puis le Grand Prix de Charente-Maritime le 21 août, donc à Saint-Jean-d'Angély. Voilà, ça sera 2 belles épreuves et puis il y aura normalement du public, donc ça devrait bien faire fonctionner. Hein. Moi, je suis voilà. Mais c'est, je pense que ça va être une belle saison. Hein. J'espère qu'on ne sera pas embêté avec le Covid et qu'on reviendra quand même à une situation normale. Faut qu'on s'en sorte de ça. Et bon, on a quand même les vaccins qui permettent de protéger les gens fragiles. On a quand même, il paraît qu'il y a des traitements qui vont arriver, tout ça. Bon, on est en extérieur. On va peut-être avoir du public.
On a déjà eu une année 2021 qui était meilleure en termes de motocross que celle d'avant.
Ouais.
Parce que...
Bah, tu sais, quand je vois, il y a des choses qui si tu veux, je veux pas rentrer dans la politique, mais quand je vois, par exemple, il parlait l'autre jour de la réunion qu'il y a eu, le meeting de Zemmour, il parlait qu'il y avait 15 000 personnes en gros dans la salle. 15 000 personnes, on a passé en motocross au Grand Prix de France à Brou, à La Capelle cette année. Ils ont dû avoir entre 6 et 7 000 personnes payantes, hein, c'est
et,
tout.
Et en plus, c'est pas dans une salle, c'est en extérieur.
Et,
plus, c'est
et voilà. Et, là, et déjà, là, on commence à dire attention, il peut peut-être y avoir des jauges ou des choses comme ça. En plus, je crois qu'il y avait le pass sanitaire hein, pour aller au Grand Prix. Donc, voilà, il y a des choses que je comprends pas trop. Et c'est dommage parce que ça pourrait être simple quoi. Et puis bon, le motocross encore une fois c'est en extérieur et puis il faut que le public soit là et puis il faut une ambiance quoi, parce que même les pilotes s'en plaignaient un petit peu de pas avoir de public. Alors j'espère que en 2022 on sera pas embêté avec ça, qu'il y aura quand même une certaine liberté de proposer et puis que tout se déroule normalement. On a tous envie de ça hein. Je pense que on est tous d'accord là-dessus. Hein. Bon, on verra après comment ça va se passer.
Tu parlais de la réunion du congrès, enfin pas du congrès, de la réunion de Zemmour et puis
meeting, oui.
En parallèle avec le motocross. Sauf oui. qu'en motocross, les femmes ne bagarrent pas. Hein.
Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais donc, ce que je vois, c'est que le motocross, c'est un sport en plein air. Et donc, il doit y avoir du public. Cette année, c'est reparti. On a quand même on a vu un Grand Prix à La Capelle qui s'est très bien déroulé. Avec, au passage, un public présent. Autour du circuit, c'est-à-dire et dans le circuit, c'est-à-dire avec des barrières, on voyait les gens encouragés, etc. On n'était pas emmerdés par des grillages de 2 mètres, etc. Donc je pense que à La Capelle, ils n'ont pas eu 25 morts ou des choses comme ça. Hein, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, qu'il n'y ait pas des grillages de 2 mètres de haut tout autour des circuits, soi-disant pour protéger le public, c'est complètement...
On en a parlé juste avant, Gilou,
ah oui
avec Stanley, ouais, ouais. Pareil, ouais. Tu vois là.
Il t'a référencé, lui... dis donc.
Et j'ai même parlé de toi, bien sûr.
Ah bon.
Mais tu sais, pour revenir au public, je rebondis sur ce que tu disais, on a la référence avec les stades de foot. Tant qu'il y aura des stades avec du public, je pense que le motocross, le public sera autorisé. Par contre, nous, frontaliers, on aura peut-être des problèmes pour aller à Lommel ou pour aller en Hollande, parce que est-ce qu'on pourra quitter la région pour changer de pays pour voir un motocross ? Ça, c'est surtout pour les supporters qui ne sont pas nationaux.
Voilà. C'est encore une fois, c'est les évolutions et les pays, les États qui donneront les consignes. Ça change malheureusement pratiquement d'une semaine sur deux. Tu vois, là, on a appris par exemple que les discothèques étaient fermées. Ça tombe sur eux. Ils sont fermés. Je vois pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que ça va pas. Je pense pas qu'il y a 1500 ou 2000 discothèques en France. Je sais pas où. Je crois que ça doit être ça, à peu près 2000 discothèques. Je pense pas que ce soit ces 2000 discothèques qui vont faire baisser la pandémie en France. Les gens se croisent partout, enfin bon, bref, c'est pas trop mon souci. Moi, le souci, c'est vraiment, on nous parlait du calendrier, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu du calendrier national aussi.
Gilou, est-ce qu'on peut te reprendre, j'aurai le président de la Ligue de Hauts-de-France, et puis on te reprend après, et on parlera à l'emplage de l'épreuve élite.
Oui, il faut parler un petit peu de ça, et puis la façon dont tout ça vient un petit peu se percuter avec les Grands Prix, tout, il y a des choses à dire.
D'accord.
Eh bien voilà, eh bien, alors à tout de suite.
Gilou.
Okay. Ok, ça marche.
Call me the space cowboy. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. I speak of the promptness of love. People talk about me, baby. They say I'm doing you wrong. I'm a midnight dog.
Le tout terrain à l'affiche avec notre grand spécialiste Guy. Et on retourne Gilou parce qu'on n'a pas réussi à avoir
Gilou,
que Sedler pour l'instant.
Écoute, oui. On n'a pas pu passer Joël Robert malheureusement, mais...
Oui, bah écoute, je vais bien en tête.
On va pas te le passer à chaque fois.
Allez Joël Robert.
Ouais, non. C'est bien.
C'est bien. Mais chacun son métier, je ne suis pas chanteur non plus. Hein. Moi je préfère vraiment me consacrer au motocross et dans tout ce qui concerne le motocross.
Ouais, parce que bon, chanter Joël Robert et alors que tu es tout nu, bon, ça fait pas. Hein.
Alors donc.
Ouais, on va reparler du championnat de France élite.
Du calendrier du championnat de France, parce qu'en fait, il y a 7 épreuves en élite l'année prochaine. Et bon, entre parenthèses, moi je suis un petit peu en colère quand ça sort les calendriers, parce que la Fédération française sort un calendrier avant le championnat du monde. Donc voilà, ils sortent 7 épreuves. Total, il y a le championnat du monde qui sort et il y a 6 sur les 7 épreuves, il y en a 4 ou 5 qui se retrouvent en concurrence d'un Grand Prix. Donc déjà, ils sont obligés de refaire un autre calendrier derrière pour modifier les dates. Donc ils les refont et là, il y a encore 2 épreuves qui sont toujours en concurrence d'un Grand Prix. Alors, dont Lundplage. Alors Lundplage, j'ai envie d'en parler. Parce que c'est une première, c'est l'ouverture du championnat 2022, hein, ça se déroule le 5 et 6 mars, et ça se déroule dans le sable, et donc c'est vraiment une première, et c'est la première fois qu'ils organisent une épreuve élite de motocross à Lundplage. Et puis je sais que c'est très compliqué, parce que ils vont devoir... tout aménagé, parce que là-bas, moi, je connais pas trop le circuit. Marco, tu connais peut-être un peu, toi, le...
J'ai roulé à Lundplage il y a très longtemps, donc ça doit plus, ouais. Ça doit plus ressembler à ce que j'ai connu.
Ouais. Mais c'est de la location, et puis donc ils doivent tout amener, c'est-à-dire
il va falloir clore le circuit certainement pour pouvoir faire payer des entrées, parce que là, là ça sera différent, ça sera payant, il va falloir aménager des douches, des réseaux internet, il y a un tas de trucs qui vont devoir être installés très rapidement en plus.
Et puis les box pour nettoyer les motos, de tout adapter, contrairement à toutes les autres épreuves qui, elles, sont... Les clubs sont habitués à organiser, ils sont équipés, tout est organisé pour le motocross. Là, ils se retrouvent à tout devoir mettre en place, à beaucoup de dépenses. Et je pense que c'est un problème de budget qui va être important, parce qu'ils vont se retrouver, à tous les coups, ils vont se retrouver déficitaires. Parce que déjà, on sait que les épreuves du championnat élite, c'est déficitaire. En temps normal, malheureusement, on n'a plus beaucoup de public qui se déplace, et le cahier des charges est quand même élevé. Hein. Faut voir, il y a 4 catégories de présentes, donc c'est assez difficile. Et j'avais eu Isabelle Andrieux, la présidente de Lundplage, et... avec son autorisation, elle m'a donné son accord pour donner son adresse mail, parce que finalement, si dans l'émission, je fais un appel pour elle, hein, s'il y a des sponsors, des partenaires qui ont envie de participer et de les aider, parce que ça va quand même amener sur la région 3000, 4000 personnes, peut-être 5000, entre les pilotes, les accompagnateurs et puis le public, il devrait y avoir quand même pas mal de monde. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'aider le club, hein, des partenaires, des sponsors, les hôtels, les restaurants, les commerçants, etc., je pense que ce serait bien qu'ils la contactent. Alors, je vais vous donner l'adresse mail. Hein, c'est isabelle.andrieux, A-N-D-R-I-E-U-X, @hotmail.fr. Et donc, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez participer, des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui sera important et puis qui peut aider le club pour ce 2022, pour leur épreuve, et puis pour l'avenir aussi, hein, bien sûr.
Tu sais, concernant Lundplage, le seul petit avantage qu'elle peut avoir pour organiser l'élite, c'est le championnat de France de course sur sable, où il y a un très nombreux public, parce que par exemple c'était cette année à Lundplage, il y a eu du soleil pour une fois dans le Nord, contrairement à ce que tu peux penser.
Pour une fois, t'as dit, Omar.
Ouais, voilà. C'était ce jour-là.
C'était ce jour-là.
Ouais, donc, je sais plus, il y avait plus de 8000 ou je sais plus que.
Ouais, mais c'était gratuit.
C'était gratuit.
Alors, mais, bon, c'est.
Ouais, ouais, non, mais. C'est, mais avec alors, des entrées, je pense, je crois qu'Isabelle, les entrées vont être à 10 euros, je pense.
Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il va y avoir normalement, il devrait y avoir du monde. Il va y avoir, au niveau des participants, il va y avoir, je pense, pas mal de pilotes qui viennent du championnat des sables, qui vont participer à l'épreuve. Donc, il faut vraiment tout faire pour que ça soit un succès, que ça soit pas un gouffre financier qui mette le club en difficulté, quoi. Voilà, c'est parce que eux, ils ont vraiment beaucoup de dépenses pour suivre le cahier des charges qui est imposé par la fédération.
Il y aura au moins un pilote de grand prix. Parce que j'ai vu qu'il y avait Maxime Boiramé qui sera là.
Alors Maxime Boiramé devrait être là parce que oui, mais enfin bon, bon, il devrait être là normalement, sauf que le jour de l'épreuve, il y a, je te disais tout à l'heure,
oui,
il y a le Grand Prix d'Argentine.
Ah oui, c'est l'Argentine, par exemple.
Alors est-ce qu'il avec son nouveau team, est-ce qu'il sera en Argentine ou est-ce qu'il sera à Lune Plage? Alors c'est l'Argentine, c'est vrai. Ah,
parce que son nouveau team l'a inscrit en élite. Hein.
Bah, il l'inscrit en élite, mais tu sais qu'il y a des points de compensation qu'ils ont mis en championnat. C'est-à-dire que si le pilote fait tout le championnat de France, mais qu'il est absent lorsqu'il va sur un Grand Prix, par exemple, eh bien, il aura des points de compensation sur la moyenne des points acquis dans tout le championnat de France. Donc, on lui. Voilà, je vais faire un exemple en gros. Par exemple, une victoire de manche, c'est 25 points. Donc, si tu gagnes les deux manches de la course, c'est 50 points. Supposons qu'il gagne toutes les manches auxquelles il participe, Mathis, eh bien, même si le jour du Grand Prix, il est en Argentine, eh bien, on lui donnera 50 points pour l'épreuve de Lune Plage, par exemple, alors qu'il n'y participe pas. C'est des points de compensation. Alors, fait un petit peu. Oui, oui, c'est des points de.
C'est bizarre, voilà.
C'est les points. D'ailleurs, je vais bientôt diffuser moi sur mes motocross les championnats de cette année. Hein, je suis en train de faire les mises à jour et je l'explique. Hein, je donne et je les mets les couleurs différentes sur les points de compensation. Il y a quelques pilotes, même en junior et tout, qui ont fait qui ont des points de compensation comme ça. C'est un petit peu.
Mais ces points, ça a déjà existé, ça. Hein,
des points de compensation, ça a déjà existé. Bah, ça existe depuis quelques années, parce que je me souviens que, comment il s'appelle, c'était Jeremy Van Robeck qui avait été champion de France, il avait bénéficié de ces points-là. Mais c'est aussi un moyen de faire venir quelques pilotes de Grand Prix, parce que ça, c'est le gros problème que l'on a, c'est que les pilotes de Grand Prix ne font plus l'élite.
Ah, ouais.
Alors, il faut que la fédération se pose les bonnes questions, parce que le problème, c'est qu'on a même en concurrence, par rapport aux épreuves élites, on a les Grands Prix, donc ça fait une concurrence, mais en plus, les dates libres, comme les autres pays aussi pour leur championnat, et il y a notamment le Dutch Master qui se déroule en Hollande, qui est bien mieux rémunéré, et donc les pilotes, lorsqu'il y a le Dutch Master, eh ben, ils vont là-bas plutôt que de faire l'élite. Donc on se retrouve avec la concurrence des Grands Prix et la concurrence des grands championnats européens. Alors, il y a nationaux, mais européens. Alors, ce qui fait que faut vraiment... Là, il y a quelque chose à voir. Et la seule solution, à mon avis, c'est d'avoir un gros sponsor pour faire le championnat de France. Mais il faut le trouver. Hein, parce qu'il y en a actuellement, mais il peut pas... Financièrement, il ne peut pas assurer ce que fait les autres pays. Alors, voilà, c'est un petit peu la difficulté. Hein. Donc, on se retrouve avec un championnat de France élite qui est peu crédible sur le plan sportif parce que les meilleurs ne sont pas là, ne participent pas. Alors, c'est un petit peu dommage, hein. C'est même fort dommage. Et je pense que ça explique aussi la baisse de fréquentation du public, hein, parce que les gens veulent venir voir les meilleurs.
Ah, les pilotes qui sont visibles à la télévision en général.
Ah ben voilà,
c'est ça,
et puis bon, et en plus il va y avoir deux Grands Prix de France en 2022. Donc si tu veux voir par exemple Romain Febvre, eh ben on sait qu'il sera présent à ces deux épreuves, alors que sur l'élite il y a 9 malchances sur 10 qui sont absents. Ah oui, il sera absent, oui, c'est quasiment certain. Alors maintenant, la bonne nouvelle qu'il pourrait y avoir, c'est que le Grand Prix d'Argentine soit annulé. Parce que du coup, Lune Plage serait une épreuve sur sable, et je pense que ça serait pas mal, vu que derrière, il y a le Grand Prix des Pays-Bas, je crois qu'il arrive 15 jours après, à Os, il y a un circuit sur sable. Donc ça ferait une bonne préparation. Si le Grand Prix d'Argentine est annulé, Lune Plage serait
Le 6, ça serait l'Argentine, mais le 20, il y aurait un...
Portugal peut-être.
Il y a un circuit qui n'est pas
Portugal, mais il y a le 27. Moi je parle du 27.
Le 27,
avec,
c'est Os.
À Os, ouais. Os, et d'ailleurs, Os, tu vois, on parlait des grillages tout à l'heure.
Oui.
À Os, il y, y a notre ami Pascal Audicaire qui se plaignait des grillages à Os parce que même lui, en tant que professionnel, il était gêné par la hauteur des grillages parce qu'il n'y avait pas de place pour le photographe entre le grillage et la piste.
Bah, donc, écoute, Stanley a dit l'inverse. Il a dit qu'à Os, justement, c'était... Ouais, c'était tout à fait abordable, c'était très bien. Il a dit, on voit que c'était un grand, c'est des organisateurs qui n'ont pas l'habitude de faire des grands prix parce que là, ouais. Pour les spectateurs, c'était très bien.
Ah ben tout va. Moi, je me souviens d'avoir vu un message de Pascal sur les réseaux sociaux où il se plaignait de justement de la place pour faire des photos et des emplacements. Ouais, bon, c'est comme ça.
Pour revenir sur l'Inde Plage, est-ce que tu as vu la petite vidéo de Jeffrey Herlings qui annonce sa participation le 19 décembre à l'épreuve de l'Inde Plage?
Oui.
Ouais, parce que j'en parlais à Guy qui l'a pas vu et
je sais qu'il participe, j'ai pas vu la vidéo, mais je sais qu'il participe. Bah
en fait, il était dans sa voiture et puis il annonce ça en conduisant.
Ah, voilà. Bah, ça lui fait un moyen de s'entraîner.
Ouais. Donc ça serait le 19 décembre.
Et puis certainement qu'il a eu un bon chèque de plusieurs milliers d'euros pour participer. Donc, quitte à entre s'entraîner dans un circuit
tout seul,
faire un simulé en compétition et puis en plus d'avoir un bon chèque, et bien il a
bon,
tout
par
à
contre,
fait.
Par contre, on ne le verra pas dans des épreuves comme le Touquet, hein, parce que c'est des épreuves beaucoup plus longues au niveau timing. C'est 3 heures et ça, il n'est pas du tout formaté pour des épreuves aussi longues.
Ouais, c'est plutôt une épreuve qui serait capable de relever le défi, lui, en fin de carrière.
En fin de carrière,
ouais. Ouais, parce que...
Mais c'est spécifique, 3 heures de pilotage comme ça dans le sable.
Ouais,
c'est...
mais Herlings, moi j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Herlings. Vraiment, je trouve qu'il a passé un cap. Au début de sa carrière, qu'il a commencé à avoir des succès, même des titres en MX2, par exemple. Je trouvais qu'il était arrogant, même lorsqu'on en arrivait. Et lorsqu'il est arrivé en MXGP, il a un petit peu changé. D'abord,
Herlings.
Ouais. Il a eu des difficultés, d'ailleurs, les premières années, hein, parce que c'était difficile, il s'en est rendu compte. Et puis, après, il est devenu plus humain.
Ouais.
Il cherche pas systématiquement, lorsqu'il gagne une course, à avoir 40 secondes d'avance sur le deuxième. D'ailleurs, il a du mal maintenant à le faire, mais je veux dire, il gagne des courses, il a du panache. En plus, il relève les défis, et ça, j'adore ça, parce qu'il est quand même allé, je le dis souvent, mais il est allé battre Tomac aux États-Unis sur un Undor, alors qu'il n'avait rien de particulier à faire là-dessus. Il est allé vraiment pour le plaisir et il a réussi son pari. Il est allé aux Nations cette année. Alors qu'il était en course pour le championnat du monde.
Tout à fait, ouais.
Et lui, il est allé à Mantova, il était faire les nations avec son équipe. Il aurait très bien pu dire, parce que même si la fédération le sollicitait tout, il aurait très bien pu dire, comme on dit beaucoup de pilotes, je joue le titre, donc je veux pas prendre de risques en saison, etc. N'empêche qu'il y est allé, et en plus il a gagné, il est à titre individuel. Donc, moi, ce garçon, c'est vraiment un grand champion. On a vu sa fin de saison qui a été exceptionnelle aussi. Voilà, c'est vraiment, je suis admiratif de Herlings. Et en plus, il y a eu après la saison, lorsque Keroli, il y a eu une cérémonie pour lui pour tout ce qu'il a fait.
Il a salué.
Qui s'agenouille devant Herlings, s'agenouille devant Keroli, c'était vraiment beau. Et voilà, je trouve que cette année, Herlings, c'est 100% réussite, malgré les blessures, hein, parce qu'en plus, il s'est encore blessé cette année.
Blessure et chute, hein, parce que quelquefois, c'est un peu limite, hein, son pilotage aussi.
Tu sais, même en motocross, maintenant, ils sont obligés, ils ont tous chuté, Keroli a chuté, Team Gageur a chuté, Romain a chuté, alors parfois... Il se relève et ça part, donc ça marque moins, mais il se blesse et il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup trop de blessures dans le motocross, de toute façon, c'est un réel problème, mais ça, j'en ai déjà parlé, et je pense que ça vient essentiellement de la puissance des motos, et puis voilà, et puis on aime pour la télévision montrer des images spectaculaires, c'est-à-dire des sauts hauts, des sauts loin, mais voilà, mais c'est, quelque part, c'est pas normal, si tu veux, à la sortie d'un virage, il y en a un qui fait l'extérieur à fond, il a autant de vitesse pour prendre derrière un saut en double ou en triple que celui qui est à l'intérieur, qui fait juste qui est quasiment à l'arrêt, qui fait une accélération. Et il peut malgré tout faire le double aussi. Donc ça prouve que les motos sont hyper puissantes. Et puis voilà, et il faut les maîtriser. Et je pense que l'être humain reste l'être humain. Donc c'est pas des robots.
Gilou, 15 minutes.
Oui, je vois pas de quoi tu parles.
15 minutes plus de tours.
Ouais, voilà.
15 minutes plus de tours.
Écoute, on va rappeler Monsieur Stader.
Ouais.
Et si jamais on l'a pas, bah écoute, on te rappelle pour finir l'émission.
Il y a pas de souci, on parlera de Keroli et puis.
Voilà.
Et puis, il y a un petit mot peut-être sur. Faut penser à, parce qu'on a quand même un jeune pilote, un René Hofer qui est décédé.
Ouais, ben on en parlera.
Tu as le temps d'aller prendre un petit breuvage, il est 12h03.
Et de t'habiller.
Voilà, et t'es habillé, termine de t'habiller.
Voilà, je vais mettre une chaussette au pied droit.
Voilà. Nous avons Patrick Stender qui est président de la Ligue des Hauts-de-France au téléphone.
Bonjour Patrick.
Et bonjour. Bonjour, vous allez bien ?
Tout va bien. On a eu peur parce qu'on avait téléphoné et puis c'était le répondeur. Mais Patrick Stender, il était là sur un autre coup de téléphone. On va parler du calendrier de la Ligue des Hauts-de-France qui a quand même 37 épreuves, c'est bien ça ?
Tout à fait, 37 avec encore quelques-unes à confirmer. Donc je pense qu'on aura un calendrier avec 30 épreuves.
D'accord. Est-ce que le motocross, bien sûr, il est en tête de liste hein, de ce calendrier ? Parce que bon, il y a des courses de vitesse à Croix-en-Terdois, il y a bien sûr le Touquet lors du Ropal, il y a de l'enduro aussi, bon, il y a un peu de tout, quoi, du trial même.
Effectivement, on développe d'autres disciplines que le motocross, puisqu'on essaye de mettre en place un championnat de ligue de vitesse, un trophée de ligue de vitesse, puisque là, nous avons des circuits et des pilotes, donc nous allons essayer de relancer la vitesse également.
Et sur quel circuit alors ? Parce qu'il y a un circuit dans l'Aisne.
Alors, il y en a plusieurs dans l'Aisne. Voilà, il y a le circuit de Clastres, mais qui n'est pas homologué à la compétition.
Ah, d'accord.
On espère qu'ils y viendront un jour. Le circuit de Folembray qui est en cours. Donc, voilà, nous avons des possibilités actuellement pour la vitesse.
D'accord. Donc, ça serait un championnat de la Ligue, alors, éventuellement, enfin, dans les années prochaines.
Voilà, un championnat de Ligue pour nos jeunes de la région, puisqu'il y en a de plus en plus. Effectivement, Croix-en-Ternois fait déjà un championnat de France moto ancienne, un promo sport qui compte pour un championnat de France, et notre première épreuve du trophée de Ligue au mois de juillet.
Ça sera à quelle date, mois de juillet
Le 16 et 17 juillet.
Ah d'accord, ok. Et concernant aussi des championnats de France, il y aura deux épreuves de championnats de France junior
à Croix.
Et en motocross, hein, je parle.
En motocross, nous avons cette année 6 championnats de France. Donc avec donc au motoclub de Blargy, le samedi, ils font un championnat de France de moto ancienne, championnat de France de sidecar international et également un championnat de France de quad.
D'accord.
Ensuite, nous avons Plomion avec un championnat de France de sidecar inter et une course internationale, donc qui sera une très belle épreuve. Nous aurons la finale du Miniver à Clastres au mois de septembre, ce qui fait que voilà, on a un calendrier très intéressant. Sans parler du championnat de France des courses sur sable, qui viendra s'intégrer également en fin d'année.
S'intégrer. Justement, la semaine prochaine, à Longplage, il va y avoir le Ultimate. C'est une épreuve de tout terrain hein, dans le sable. C'est pas noté sur le calendrier, c'est tout à fait nouveau.
Non, ce n'est pas nouveau, mais le fonctionnement de cette épreuve n'est pas pris en charge par la Ligue, puisque c'est un club qui fonctionne de manière autonome.
Ah d'accord, mais normalement, un club, s'il n'est pas affilié à la fédération, est-ce qu'il peut organiser quand même alors, ou alors il est affilié, non ?
Oui, c'est un club qui est affilié, mais qui vole de ses propres ailes, on dira.
D'accord, parce que je crois que c'est la deuxième épreuve qui a eu lieu sur Longplage. Ouais. Avec l'organisateur qui s'appelle Marc
Darcourt,
ouais, voilà. Et là, la semaine prochaine, il y a le champion du monde Erling, Jeffrey Erling, qui vient derrière la grille de départ. Et puis, l'information, elle a quand même du mal à passer parce que la plupart des gens ne le savent même pas.
Ah oui, c'est parce que en fait, si Erling n'avait pas lui-même fait l'annonce de sa participation, on n'était pas au courant.
D'accord. Pardon ?
Oui, je dis bien sûr, mais bon, voilà, le club fonctionne de manière autonome.
D'accord.
Voilà, donc c'est un choix de sa part.
D'accord. Le 29 mai, championnat du monde, championnat de France de sidecar cross. Oui. Michel Leblanc de Plomion voulait organiser un anniversaire déjà l'année dernière, le 50e anniversaire, je crois, de Marle-Boiry. Et cette année, pour l'année prochaine, le Grand Prix de France ne fera pas étape à Plomion. Bon, ça, c'est des suites à des promoteurs peut-être trop avides d'argent. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ?
Mais vous avez parfaitement résumé la situation. Actuellement, ce championnat du monde de sidecar est repris par un promoteur, mais qui demande des sommes faramineuses pour pouvoir pour permettre au club d'organiser. Donc à ce jour, un organisateur de championnat du monde de sidecar ne vit qu'avec les entrées. Et ce promoteur lui demande au minimum 10 000 euros et une quote-part sur les entrées pour intégrer un championnat du monde en France. Et donc actuellement, il n'y a aucune épreuve du championnat du monde de sidecar inscrite sur le calendrier national parce que la fédération et le promoteur sont toujours en désaccord.
Et même en Belgique, alors que c'est un sport assez populaire en Belgique, pas de Grand Prix de Belgique. Hein,
Malheureusement, voilà, si on regarde bien, pas de Belgique, pas de Suisse. Oui. L'Allemagne, c'est très compliqué. Ben, évidemment, contrairement aux organisateurs de championnats du monde et MIG-GP, les organisateurs de Grand Prix sidecar sont complètement, je l'ai dit, bénévolat à 100%. Donc les budgets sont trop importants, quoi. Donc irréalisables pour nos clubs.
Parce que Plomion, quand même, avec le sidecar cross, enfin le championnat du monde, bien que c'est des épreuves de niche, mais il y a un public belge et hollandais qui est présent aussi à Plomion.
Il y a toujours de la réussite quand il y a un Grand Prix en France, effectivement. Sauf que ce que demande le promoteur est plus élevé que ce que peut gagner le club. Donc il arrive à un moment donné, il faut rester sérieux et on ne peut pas inciter un club à organiser un Grand Prix alors qu'il sait pertinemment qu'il risque de perdre de l'argent au départ.
Monsieur Salder, vous qui êtes aussi à la commission Cross, j'avais entendu parler de que Ifendic serait en contact avec les promoteurs pour organiser un Grand Prix.
Alors, je peux vous donner de sources sûres que Ifendic n'est pas au calendrier et n'organisera pas de Grand Prix si le promoteur ne baisse pas ses tarifs.
Ses tarifs, en effet.
Ah, ouais. Non, mais c'est une certitude, c'est une information officielle de la semaine dernière.
D'accord.
Il y a encore deux dates disponibles, là, j'ai vu sur le calendrier, qui n'ont pas été attribuées. Vous pensez que ça va être pour quel genre de pays sur ce calendrier ?
Alors ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse.
On aimerait bien. J'ai vu qu'il y avait le 10 juillet et le 7 août. Donc c'était à déterminer, ouais.
Sauf que ce sont des dates qui ne conviennent pas aux organisateurs français. Parce qu'il y avait Brou qui était en liste. En liste pour organiser, mais il fait toujours le lundi de Pentecôte. Plomion, lui, n'aura pas le Grand Prix parce que comme Ifendic d'ailleurs, tout le monde est en désaccord avec le promoteur et les dates proposées ne conviennent pas.
Oui, parce que Brou était aussi en face du Grand Prix de France à Herné, je crois.
Hein. Voilà, c'est
donc,
ça.
Donc Brou, Herné, il n'y a pas loin, quoi, bon, pour le public.
Oh, puis toute la complexité d'organiser un Grand Prix, puisqu'on doit tenir compte des championnats du monde, on doit tenir compte des championnats d'Europe, des championnats de France. Nous, les ligues, c'est toujours très compliqué de faire un calendrier.
Pour revenir, on parlait du Supercross de Paris. Vous étiez directeur de course à Paris.
Oui, effectivement, j'étais officiel sur le Supercross de Paris, hein, depuis 17 ans, donc je suis sur le Supercross de Paris, oui.
Est-ce que c'est à cause de vous que Maxime Renaud fait deuxième ?
Pourquoi à cause de nous ?
Ben non, on aurait pu faire premier. Ouais.
Enfin, déjà deuxième, c'est déjà pas mal. Hein. Non, parce que Maxime, il est quand même sociétaire de la Ligue des Hauts-de-France. Le président devait applaudir M. Salder de sa performance.
Ah mais sa performance était très belle. D'ailleurs, il a été félicité. Maintenant, comme Maxime l'a expliqué, c'était son premier Supercross. C'est quand même une discipline très différente par rapport au MXGP. Et voilà, quoi. Mais il a pris des mauvais départs. Enfin, voilà, quoi. Petite chose au rendu greffé. Mais enfin, il a fait quand même de belles prestations et franchement, bravo Maxime, il va bien.
Moi, je voudrais revenir sur j'ai une petite question concernant les Hauts-de-France. Il y a quelques années, quand il n'y avait pas l'appellation Hauts-de-France, quand ça était Nord, Pas-de-Calais, tout ça, il y avait le championnat des Flandres. de motocross. Est-ce qu'il existe encore un équivalent pour les pour le plus local, pour chaque région en fait?
Non, ça n'existe plus puisqu'il y a la fusion.
Oui. Hein,
puisque les pilotes, qu'ils soient, quel que soit le département, font partie de la Ligue des Hauts-de-France, donc on ne peut plus scinder. Par contre, ce qui devrait se mettre en place par le biais des comités départementaux, ce sont des championnats régionaux.
D'accord.
C'est-à-dire que chaque comité départemental peut faire un classement des pilotes de son département. Donc ça, c'est en discussion.
Et donc, ça sera sur quel cylindré? Ça serait MX1, MX2, MXGP ou...
Non, tout est cylindré qui concerne le championnat des Hauts-de-France.
D'accord.
Voilà. Hein, puisque maintenant, les comités départementaux existent. Ils perçoivent quelques subsides de la fédération pour pouvoir fonctionner. Et chaque, par exemple, il va y avoir un championnat de Ligue des Hauts-de-France, des courses sur sable, des classements tirés des championnats de France.
Ah, voilà.
Et ce sera de même pour le motocross. C'est-à-dire que chaque département pourra faire un classement pour les pilotes du 59, du 62, du 02 et ainsi de suite.
Et c'est prévu pour l'année prochaine ou plus tard?
Oui. On espère l'année prochaine, oui.
D'accord. Eh bien, Monsieur Slender, on vous remercie de votre intervention concernant le calendrier des Hauts-de-France 2022 qui est bien rempli. Alors, est-ce que cette année, vous avez eu quand même des annulations ou pas à cause du Covid?
Ah oui. Malheureusement, 2021 a été une année compliquée puisque nous avons commencé les premières épreuves le 23 mai.
Ah oui.
Donc toutes les épreuves. Eh oui, toutes les épreuves de mars, avril et mai. Alors quelques-unes ont été reportées. Hein, on a réussi à trouver des dates. Malheureusement, on n'a pas pu tout reporter. Malgré tout, on a eu beaucoup d'épreuves de championnat et ça s'est quand même plutôt bien passé. Alors j'espère que pour 2022, vu la conjoncture, on ne va pas repartir sur la même problématique.
Oui, enfin pour l'instant, on est aussi dans le brouillard à ce niveau-là.
On est plus que dans le brouillard, ouais, effectivement. Ouais.
En effet. Monsieur Stalder, vous avez quelque chose à rajouter? Allez-y.
Non, mais écoutez, moi j'espère que 2022 va bien se passer, qu'on démarre une saison normale, nous allons croiser les doigts. Et puis d'ailleurs ce week-end, il y a la remise des prix à Bapaume, samedi, où nous allons récompenser nos meilleurs pilotes.
Parce que c'est à Bapaume, d'accord.
Voilà, mais dans nos meilleurs pilotes, par exemple, nous avons Adrien Van Beveren, hein, qui est licencié à Bécancourt, qui est vice-champion du monde des rallyes. Donc vous voyez, on a quand même une belle remise des prix à venir.
D'accord. Eh bien, écoute, on vous souhaite la meilleure
saison possible.
Et puis, on aura l'occasion de se recontacter pour une petite interview à la radio. Monsieur
Avec
le
plaisir.
Tader, on vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.
She's a devil, a demon. She knows she's looking fine. With a blue jean denim jumpsuit, she knows it blows my mind. I'm weak, I'm shaking. I have no strength or spine. Cause her blue jean denim jumpsuit makes a meal for mice.
On a Michel Leblanc et oui. Pas Michel Blanc comme oui. J'ai appelé au téléphone tout ouais. À l'heure. Excuse-moi Michel, hein. C'est pas l'acteur, ouais, c'est, pas le, c'est le président du motoclub de Marley-Warry. Excuse-moi encore.
Bonjour Michel, Michel Leblanc. Bonjour.
Michel Leblanc.
La réunion à la préfecture, elle est terminée?
Oui, c'est terminé. Ouais, je suis dans la voiture là, mais je me suis arrêté, donc il n'y a pas de souci.
D'accord. Est-ce que cette réunion, c'était l'accord pour l'année prochaine pour le Grand Prix de Cyclocross? Vous avez eu le feu vert de la préfecture.
Non, ça n'a rien à voir avec l'organisation de l'année prochaine. D'accord. Non.
Alors, justement, on discutait du calendrier des Grands Prix. De Cyclocross, c'était l'année dernière que vous alliez faire le 50e anniversaire du Plomion, je crois. Hein.
Oui, ça devait être programmé pour l'an dernier,
oui. Oui, alors cette année, bon, Covid, et, l'année prochaine, en 2022, pas d'accord avec les promoteurs.
Alors, très compliqué, donc il n'y aura pas, de toute façon c'est une certitude, il n'y aura pas de championnat du monde à Plomion en 2022. Le contexte avec le promoteur est plus compliqué.
En effet, parce que même en Belgique, alors qu'il c'est un sport assez populaire, le cyclocross, il n'y a aucune épreuve en Belgique, quoi.
Ben là, à l'heure actuelle, par rapport au calendrier qui a été donné par Martin Bénin concernant les Grands Prix CID, la Belgique, il n'y a pas d'épreuve d'inscrite au calendrier belge. L'Allemagne, ils sont en train de se poser énormément de questions aussi, ils n'ont pas d'infos du tout. La France, ben, a priori, peut-être, c'est bien avec peut-être avec un grand point d'interrogation, peut-être Ifendik, qui serait partant peut-être pour l'organiser quand même. Sinon, après, il n'y a pas d'autres infos. Martin Bénin, le promoteur du championnat du monde de side, est très gourmand. Hein.
Et parce que, voilà, concernant Ifendik, je viens d'avoir au téléphone Patrick Stalder, et je parlais d'Ifendik. Et il m'a confirmé qu'il n'y aura pas de Grand Prix... de Grand Prix de Cyclocross à Ifendik. Alors, dernière nouvelle. Là.
Alors, les dernières nouvelles, ce serait très très récent, hein, parce que ils étaient encore la semaine dernière, ils étaient encore en négociation, hein, mais c'était tendu, de toute façon. C'est tendu. Alors, de toute façon, en tant qu'organisateur, on ne peut pas signer de chèque en blanc avec, avec une personne comme ça. C'est pas possible.
Ouais, ouais, d'accord.
Il faut absolument savoir où on va. Bon, en plus, il exige quand même beaucoup d'argent déjà au départ. Il prend des royalties sur les entrées. En contrepartie, il ne nous amène pas grand-chose. Un peu, peut-être, peut-être un peu de publicité, mais moi, j'y crois pas trop.
D'accord.
À titre personnel, j'y crois pas. Non, non, c'est vraiment... bah, de toute façon, à mon avis, ça va être la mort des Grands Prix en France.
Ah,
des
ouais,
Grands
ouais.
Prix sidecar en France.
En effet, oui. Parce que le promoteur, je sais pas, c'est pas dans les 30 000 euros qu'il demandait déjà au départ, non ?
Au départ, c'était ça, c'était 30 000 euros. Ensuite, il a renégocié. Alors, on a eu une réunion, nous, en visioconférence avec tous les organisateurs de Grand Prix en France, enfin, de Grand Prix sidecar en France.
Ouais.
Et on avait réussi à se mettre d'accord sur un schéma type, si vous voulez, où ben, lui n'était pas perdant, nous, on n'était pas gagnant non plus, mais disons que ça pouvait satisfaire les deux. Bien sûr, automatiquement, lui, il a refusé. Hein, par rapport à ce qu'il demandait, ça ne correspondait pas. Donc, il a complètement refusé. La fédération nous se sert, enfin, sert d'intermédiaire par rapport au club, puisqu'on a quand même voulu négocier, mais si vous voulez, par l'intermédiaire de la fédération, de manière à avoir un contrat qui tienne la route, qui soit validé par la fédération et qui ne puisse pas revenir, et ou renégocier avec chaque club en individuel.
Vous êtes en contact avec les organisateurs de Grand Prix dans d'autres pays ?
Alors non, justement, moi j'ai pas de contact avec les autres organisateurs dans les autres pays.
Parce que je vois qu'il y a deux Grands Prix en Hollande et il y a deux Grands Prix en Allemagne. Alors c'est pour ça que je veux vous poser la question, parce que le promoteur est ni hollandais ni allemand, donc c'est pour ça que je vous posais la question.
Non, non. Alors eux on négocie avec lui. Bon, a priori, ils ont dû trouver un accord. J'ai pas d'infos par rapport aux organisateurs hollandais et allemands. Et à l'heure actuelle, bon, à ce que je sais, pareil, les infos, elles arrivent au compte-gouttes. Même eux ne connaissent pas le contenu du contrat qui va être signé. Alors, voilà. Le problème, c'est ça. C'est quoi ? Signer un chèque en blanc, c'est pas possible.
Ah ouais. Ah ouais, c'est sûr. Et je vois, il y a encore deux dates à définir hein, sur le calendrier.
Il y a deux dates qui ne sont pas attribuées. Exact.
Oui.
Ouais. Bon. Dont, théoriquement, dans ces deux dates-là, il y aurait IFENDIC, il y aurait la France. Mm-hmm. Alors, mais si vous me dites que Patrick Ostadler, le président de la Ligue des Hauts-de-France, vous a dit qu'il y aurait
IFENDIC, ouais, c'est
qu'il a eu des infos. Il a eu des infos très très récemment.
D'accord.
Que je n'ai pas eu, moi.
Ah d'accord, ah bon, il faudrait vous rapprocher alors de Patrick.
De Patrick, ouais, ok. Après je vous dis, de toute façon, Plomion n'organisera pas de Grand Prix Cid. C'est sûr. Bon, il est déjà, on arrive au mois de décembre. L'organisation d'un Grand Prix, ça se prépare au moins un an avant.
Hein. Un an à l'avance, oui.
Il faut au moins un an pour préparer tout. La publicité, la communication, démarcher les sponsors, tout ça, ça se fait pas en 4 mois de temps. Hein.
Est-ce qu'un Grand Prix de motocross est c'est possible ? Parce que je sais qu'il y a quelques années, il y avait eu un triple Grand Prix. Il y avait le Grand Prix 125 en 3 manches.
Ouais.
Et est-ce que c'est aujourd'hui encore possible chez vous ?
Non, c'est même pas réalisable.
C'est plus réalisable.
Ça n'a rien à voir avec le cyclocross, le promoteur.
C'est encore un autre promoteur. Hein. C'est le fils à Longo.
Oui.
C'est une fronte et lui, on n'est plus dans la même cour.
Bon.
Un grand prix solo, donc MXGP,
ouais.
Le budget il est d'un million d'euros. Hein.
D'accord, bon ben.
Alors vous avez compris, un petit club comme Plomion ne peut pas se permettre de s'engager sur une somme comme ça.
Ouais, mais il y a de quoi vendre sa chemise.
Et son pantalon.
Son pantalon aussi.
Son pantalon.
Je veux pas prendre la responsabilité de mettre le club par terre.
Ouais, c'est certain.
C'est pas possible. En plus, le cahier des charges, il est intenable. Et là, bah, il faut des aires de parking en macadam, il faut des sanitaires grand luxe. Enfin bref, disons que non, c'est pas tenable.
Bon, c'était qu'une question. Hein.
Ouais, ouais. mais à la place, le championnat de France de Sidcarcross, ça vaut. Voilà. Ça vaut quand même au niveau spectacle la championnat du monde presque. Hein.
Ben, vous savez, maintenant les équipages de sidecar, avec les problèmes, la problématique Covid qu'on a rencontrée les deux dernières années, et ben, ils sont preneurs de manifestations. Hein. Donc sur un championnat de France de side, on risque de se retrouver en configuration mini Grand Prix. Hein.
Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais.
Comme ça s'est passé l'année dernière. Hein.
En effet,
vous savez, l'année dernière, le championnat de France de sidecar qui s'est déroulé à Blargy, c'était un mini Grand Prix. Hein. Tous les équipages qui participaient au Grand Prix étaient là. Hein.
Ah ouais, pour ouais, c'est sûr. Ouais. Et ouais, donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même que les pilotes de Grand Prix viennent dans le championnat de France, mais bon. Ça donne un peu plus de piment aux courses, peut-être.
Ouais. Bah, de toute façon, un championnat de France, c'est quand même pas mal, déjà. Mm-hmm. Et puis, je vous dis, les pilotes sont demandeurs. Hein, ils n'ont pas roulé beaucoup, donc ils sont demandeurs. Donc, on risque de se retrouver avec des équipages de Grand Prix sur un championnat de France, ouais.
Ah ouais, et vous n'êtes pas en concurrence avec un Grand Prix à ce jour-là, non ?
Non, justement, il n'y en a pas, non.
Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, ben ça sera le Grand Prix de Plomion, alors, ce jour-là.
ouais, comment vous voulez ?
Ah, donc, voilà.
Pourquoi pas.
Ok. Monsieur Michel Leblanc, on vous remercie de votre intervention, et puis on aura l'occasion d'en reparler en cours d'année de votre épreuve.
Avec plaisir.
Bonne journée.
Avec plaisir.
Et attention à la route.
Oui, oui. Non, mais là, je vais arrêter.
Ah bon.
Hey, now, mama, listen what I say. That old love man is coming my way. He been on me since the day I was born, hunting me down till I go in the ground. I'm your son, mother, and I'm a good man. Can't do this alone, and I want you please hold my hand. Darkness close around me, I can see the light now. To me now the noonday sun is as dark as the night. And in the distance I see that love man's come for me. Hey! We'll be right back.
Bon Guy, on termine cette émission avec les infos tout terrain.
Oui, alors je te pose une question, qu'est-ce du 2 Oula. Au 14 janvier, qu'est-ce qui se passe
du 2 au 14 janvier
dans le milieu moto tout terrain.
Alors là, écoute, le professionnel, le spécialiste, c'est toi Guy, je suis désolé, mais moi je ne pourrais pas te répondre, mais je suppose que tu as la réponse.
Course de motoneige peut-être, non ouais.
Non.
Ah non, ça c'est une course de, je sais, alors c'est une course de moto de Ice Race.
Ah non, non, non. Non, 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 c'est le 44e édition du Dakar.
Ah oui, c'est le Dakar, bah oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que le Dakar, on en parle moins.
Bah on en parle moins,
qu'il y a quelques années, parce qu'avant c'était la fête. C'était le départ de Paris, même d'Arras, il y a quelques années.
Ah oui.
Hein, c'était tout un cérémonial.
Et est-ce qu'il revient en Afrique ou pas?
Ah, il pas en Afrique, en Arabie Saoudite.
Enfin, il revient.
On revient là, ouais.
Et alors, le départ, il est donné où?
Eh ben.
C'est là-bas, en Arabie Saoudite.
Parce que là, le bateau rempli de camions, de voitures, tout ça, ils sont déjà partis.
Comme quoi, ça avait quand même. Le fait de partir de France, tout ça, ça avait quand même. Ça faisait parler du Dakar.
Voilà. Donc, il y a 430 véhicules sur la liste, dont 149 motos. Il y aura 12 étapes, il y aura 8375 km de parcours, dont 4258 de spécial. Alors, les pilotes qui vont de la région. Il y aura Adrien Van Beveren, bien sûr, mais bon, en espérant qu'il va le remporter, parce que bon, il y a eu quand même deux chutes graves. Hein, ouais, graves ouais. Hein. Mais ça sera sa cinquième participation. Hein, voilà. Et un autre pilote, mais là c'est en voiture, c'est Stefan Peter Hansel, qui a quand même été 6 fois vainqueur en moto, et en tout, c'est 14 fois champion. Vainqueur du Dakar. Et nous avons aussi en moto Daniele Petrucci, l'ancien pilote pilote de Grand Prix de vitesse. Hein.
Petrucci, ça me dit quelque chose.
Ouais,
ça,
voilà. Hein. Et sur KTM, oui. il part au Dakar. Et aussi un pilote d'ordiste, mais là, il part en buggy, c'est Alex Aletru.
Axel Aletru. Nous ouais, avions reçu dans l'émission.
Dans l'émission,
expliqué un peu.
Dans l'e-sport. Ouais. Ouais.
Voilà. Donc, à la télé, ça va passer. Souvent, les émissions se passent à minuit, 1h du matin. Ouais.
Donc, le départ, c'est quand? C'est quel jour?
Le 2 janvier.
Le 2 janvier.
Le 2 janvier jusqu'au 14. Okay. Malheureusement, c'est le décès d'un pilote autrichien, René Hofer, qui était officiel KTM à 19 ans. Alors, il était parti avec ses copains
faire du ski
hors piste, et avalanche. Alors, donc, trois décès, dont...
Donc, c'était un pilote très prometteur, hein. Bon, il y a 19 ans, un officiel KTM, autrichien, donc il avait toutes les faveurs de KTM. De l'usine, et il a gagné des manches récemment, donc...
Et un Grand Prix en Italie.
Ouais.
Hein. Et il termine sixième en mix 2.
Donc c'est une triste nouvelle. Hein.
Parce que bon, en 2019, il faisait 29e, pardon. En 2020, 26e. Et là, 6e. Un petit mot sur le Supercross, vite fait.
Oui, alors cette année, le Supercross de Paris s'est déroulé sur une seule journée. Donc c'était un Supercross, entre guillemets, exceptionnel, hein, vu les conditions sanitaires. Il n'y avait pas de série de whoops. Pourquoi? Parce qu'on avait invité des pilotes de Grand Prix. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas pu faire le déplacement, des top pilotes. Donc,
et pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner.
C'est ça. Il y a beaucoup de pilotes américains
de
qui,
peur,
qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, l'organisateur s'est replié sur des pilotes de Grand Prix. Et pour leur faciliter la tâche, on a décidé de ne pas faire de hoops et de faire l'épreuve sur une journée. Il y avait Romain Febvre qui malheureusement s'est blessé.
Et une chute assez spectaculaire. Il a lâché l'embouteille.
Ouais, on a eu Maxime Renaud qui nous a fait plaisir.
Ouais, c'est...
Et puis les adieux d'Antonio Caroli
aussi,
qui a été salué par la foule. Et il y avait aussi le pilote australien, Chad Reed, qui était là aussi.
Ah oui, aussi, oui. Voilà.
Très bien, l'émission se termine. C'est bon pour le tout-terrain ?
À l'année prochaine.
Ah bah nous, on se retrouve le 16 janvier, Guy.
Oui, et c'est moi qui
débute... Le 16 janvier, 2022. C'est ah non, c'est pas toi.
Ah bon ?
Il y aura quelqu'un avant toi.
Qui ça ?
Il y a notre trio de motards engagés, hein, que tu connais bien aussi, voilà. Mais je rappelle, hein, attention, hein, on attend toutes vos infos hein, pour le calendrier 2022. Hein, et c'est encore possible de les envoyer. Donc, c'est simple, hein, par mail, hein, calendar@k1c.free. calendar@k1c.free. Ça, c'est pour le calendrier des motoclubs 2022. Mais là, il faut se dépêcher. Hein.
Bon, ben, la sortie, c'est quand
le 15 janvier. Alors, le 15 janvier, attention, avec tout ce qui se passe, on verra bien. Hein, mais de toute façon, le calendrier sera fait. Bonne fin d'année, Guy et Marco.
Ouais, ben, merci. Voilà. À vous aussi. Hein, bonne fête de fin d'année. Et à l'année prochaine.
Et à Laura.
On dit au revoir aussi à notre technicien qui est toujours. Bah alors, la technique au millimètre.
Mais il sera là l'année prochaine.
Ah, mais j'espère, oui. J'espère. Maintenant, il n'y a plus de micro. Il peut plus parler. C'est fini. Voilà, allez. Au revoir à tous.
Allez,
passez un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain.
Au revoir.